Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller.
De retour avec Suzanne Cloutier, autrice et artiste en art visuel, pour son premier livre Errance, qui explore le burlingage. La...
C'est un bon qualificatif.
Oui. Moi, je suis un peu un côté bourlingueur. Là. Donc, j'ai utilisé le pouce à plusieurs fois dans ma jeunesse pour découvrir toutes sortes de coins de pays. Donc, c'est un livre d'art parce que non seulement il y a de la poésie, mais il y a aussi des œuvres visuelles. C'est important de... pour vous d'avoir cette perspective-là, puis de faire interagir l'art écrit. On a même avec le poème là, de Madame Gill, des emojis, c'est très, très, très moderne. Et justement, cet art visuel-là, faire interagir les lettres et l'art visuel.
Oui, on est vraiment...
Oui, mais en fait, ça...
Vas-y, vas-y.
Oh, pardon.
En fait, ça
a commencé par les symboles, ça a commencé par les images, donc oui, puis c'est ensuite que les textes sont arrivés, puis elle a vraiment su combiner aussi des symboles de notre temps avec sa poésie.
Oui, parce que les symboles, dans le fond, qu'on retrouve, moi, il y en a que j'ai déjà vu, même à Montréal, même dans mon quartier, à Côte-des-Neiges. Puis,
ah oui?
Oui, puis je suis au courant de certains symboles, là, comme c'est des pictogrammes, en fait, qui sont souvent utilisés par les gens qui sont peut-être plus en difficulté pour identifier des endroits qui peuvent avoir de la nourriture, pour prévenir de dangers, pour toutes sortes de situations différentes. Donc, c'est assez intéressant, mais Suzanne, qu'est-ce qui vous a guidé vers ces pictogrammes-là qui, moi, à ma connaissance, sont souvent beaucoup plus utilisés par des gens comme itinérants, des gens plus en difficulté, des gens plus de la rue. Avec tout mon respect, Suzanne, je ne pense pas que vous êtes une femme de rue, là, vraiment. Je ne pense pas que vous avez été en situation d'itinérance. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ça?
Non, puis je suis assez sédentaire aussi, là. Je ne suis pas une nomade ou quoi que ce soit. Non, j'ai pas ce passé-là, ni dans mon histoire familiale. Ben, en fait, dans mon histoire familiale, j'ai quelqu'un qui était dans la rue, mon oncle, mais c'est pas mon histoire à moi, là. Mais en fait, c'est en croisant un ouvrage d'un designer industriel qui s'intéressait vraiment aux symboles et aux symboles dans toutes les sphères de la société, aussi bien pour ben, en fait, qui a élaboré plein d'objets de la modernité, comme quand vous prenez votre voiture, vous avez plein de symboles pour mettre vos flashers ou pour sur votre sécheuse, sur votre laveuse. Il y a plein de symboles qui ont été élaborés, qui sont des symboles que lui a élaborés avec son équipe en faisant des études sur ce qui existait dans le monde. Donc, l'idée, c'était de ne pas avoir des mots, de ne pas avoir le problème des langues. En fait, parce que c'est difficile quand tu veux vendre un produit d'un pays à l'autre. Donc, c'est un symbole, ça peut être universel. Et en s'intéressant à ça, il s'est intéressé aussi aux symboles de gens dans la rue qui étaient en fait des gens dans l'entre-deux-guerres, comme aux États-Unis, mais aussi je me suis retrouvée à trouver des symboles qui étaient plus vieux, qui dataient de l'Europe et qui étaient un peu les mêmes symboles. C'est là que ça m'a intéressée comme langage et aussi parce que ça décrivait une communauté et la façon qu'ils vivaient.
Oui, parce que c'est vraiment, il y a différents chapitres. Il y a les couleurs, on peut dire, des feux de circulation, donc rouge, jaune et vert. Donc, le rouge étant plus associé au danger. Un des pictogrammes, des symboles, et d'ailleurs, tu sais, ça dit ceci n'est pas un endroit sécuritaire. This is not a safe space. C'est super bien imagé et écrit là, dans. C'est vraiment une œuvre visuelle là, que j'ai entre les mains. Là. C'est vraiment très, très imagé. Ça se fait promener un peu. Puis celui que moi, j'ai déjà vu avant, là, à la page 82, c'est, ça dit en Suède « No money but food ». Donc, c'est un cercle avec une croix. Ça, c'est celui que j'ai vu à Côte-des-Neiges. Puis les cercles aussi pour dire qu'il y a de la nourriture ou de l'argent qui peut être donné ici. Ça,
ah oui,
ça je
okay.
les ai vus.
Intéressant de savoir qu'il existe encore, parce que moi, je ne les ai pas vus dans la ville.
Oui, c'est ça. Moi, j'habite quand même dans le quartier Côte-des-Neiges, qui est comme peut-être plus défavorisé, je dirais, là, mais j'ai un loyer pas trop cher. J'aime bien. Mais oui, c'est ça. Moi, Suzanne, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que parmi les textes qui ont été choisis, il y a plusieurs collaborateurs qui sont pas mal connus. Bon, le David Goudreau, Rodney Saint-Éloi, Perrine Leblanc, Jean Barbe. Mais il y a aussi il y a deux Autochtones qui ont été choisis, Laure Morali, qui collabore souvent avec des Autochtones, une bonne amie de Joséphine Bacon. Et Joséphine Bacon a un texte, et aussi, comme le disait tout à l'heure Alexis, Marie-André Gill aussi. Comment vous avez fait la sélection de ces auteurs-là et de ces textes-là, et comment cette collaboration-là est venue à la vie?
Bon, en fait, j'avais envie d'avoir des courts textes, soit de la poésie ou soit des nouvelles ou des choses courtes et qui prendraient soit un signe ou soit de façon plus vaste le côté nomade, parce que c'est aussi des signes que c'est pas nécessairement des gens dans la rue et dans le besoin qui ont utilisé nécessairement ces signes-là. Des fois, c'était aussi des peuples nomades qui se promenaient, qui n'étaient pas nécessairement ben, leur situation n'était pas nécessairement aussi dramatique que pour d'autres personnes, là. Puis moi, j'avais ce projet-là visuel, puis j'en ai parlé à Joséphine Bacon, mais Joséphine, c'est une amie. Donc, tout de suite, elle a dit, ah oui, moi, ça m'intéresse. En fait, elle était attirée par les couleurs. Donc, je lui ai dit, ben, je cherchais des gens pour faire un texte. On a dit, mais moi, ça me tente. Donc, ça a été assez simple avec Joséphine. Puis, j'ai demandé à des gens, à d'autres personnes. Puis, je me rendais compte que ben, j'avais des gens comme plus vieux. Puis, j'avais envie d'avoir peut-être une autre génération. Puis, c'est là que Joséphine m'a proposé Marie-André Gill, que je ne connais pas personnellement, mais dont j'ai lu les œuvres. Puis, en fait, j'avais juste lu Chauffe-le dehors, que je trouve extraordinaire. Puis, par Joséphine, je l'ai contactée, puis c'est comme ça qu'elle a dit oui.
C'était quoi les commandes que vous avez faites aux auteurs quand vous leur avez demandé d'écrire pour ce livre?
Ben, c'était assez libre quand même, parce que j'ai pas. En fait, je voulais avoir quelque chose qui faisait comme deux, trois pages. Ça pouvait aussi bien être de la poésie, mais il fallait que ça s'ancre autour du thème de l'errance. Les gens pouvaient aussi bien prendre un signe puis élaborer ou raconter une histoire personnelle. En fait, c'était très libre. De toute façon, c'est tous des gens qui savent écrire, puis je me voyais pas leur donner des directives trop précises. J'avais envie aussi d'avoir un élément de surprise. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a une grande variété de textes. Ça va un peu partout, quoi.
Oh oui, on a de la poésie, puis on a d'autres que c'est plus du récit, si on peut dire, là, comme quand je
Ouais.
compare, tu sais, Joséphine, bien sûr, on s'attendait plus à de la poésie de sa part, et c'est ce qu'elle nous livre.
Oui.
Laure Morali, c'est plus un récit, mais elle parle des nous aussi, là, que...
Oui, elle a fini avec cette histoire tragique là, qui a été retrouvé mort dans une toilette publique.
Oui.
Puis en fait, on a ensuite classé parce que au départ, c'était pas entendu que ça serait classé, que les textes seraient classés selon les couleurs. Mais quand on a reçu les textes, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui allait bien avec l'urgence du rouge, puis d'autres avec plutôt la sécurité du vert. Donc, c'est comme ça qu'ensuite, on les a séparés. Mais c'était pas prévu au départ. C'est selon les textes qu'on a reçus.
Donc, Errance est un ouvrage, dans le fond, de littérature, de design, mais vraiment d'art visuel. Donc, l'art en tant que tel, c'était quoi votre démarche pour arriver à classer ça par couleur? T'sais, vous êtes intéressé à certains pictogrammes, etc. Les textes sont plutôt écrits plus en anglais. C'était quoi votre démarche artistique?
Ben, en fait, moi, les textes, moi, les pictogrammes que j'ai trouvés, c'était dans des ouvrages anglais. Au départ, j'ai juste fait les aquarelles en écrivant la définition, comme je l'ai trouvé. Donc, je ne l'ai pas traduit au départ, là. C'est traduit dans le livre, mais moi, bon, j'ai juste écrit la définition comme je la trouvais. Puis en faisant les dessins, je me disais, bon, finalement, c'est comme il y a trois avertissements, il y a trois types de communication. Il faut faire attention à ceci, on peut aller par là ou aller surtout pas par là parce que il se passe, ben, soit que c'est quelqu'un d'armé, de dangereux ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça que je les ai classés. En fait, la classification est venue après. Moi, au début, j'étais fascinée de voir que, disons, un triangle pouvait vouloir dire la même chose en Suède, en Angleterre ou aux États-Unis. Puis, j'essayais de trouver le caractère universel de ces symboles-là. En fait, c'était ça qui m'intéressait au départ, le côté visuel et pourquoi un signe comme cela pouvait dire la même chose à quelqu'un au 19e siècle en Suède ou des années 30 aux États-Unis.
Ces pictogrammes-là, est-ce qu'il y en a qui vous ont surpris? Est-ce qu'il y en a qui vous ont étonné? Ou est-ce que vous faites, ah, est-ce que. Parce que c'est quand même une autre réalité, là, je veux dire, d'avoir des signes comme ça. C'est pas tout le monde qui se dirait, OK, ça veut dire que je devrais pas aller vers cette ruelle-là, il va y avoir des gens dangereux, ou ah là, ces gens-là vont pouvoir me nourrir si je travaille pour eux.
Non, en fait, c'est ça qui est la beauté de la chose, parce que c'est comme si c'était une langue secrète entre les gens d'une communauté de la rue. Donc, c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour moi, parce qu'on n'en a pas besoin, mais c'est une langue qui s'est développée, bien, c'est un langage qui s'est développé visuellement, puis qui s'est passé de personne en personne. C'était pas enseigné dans les écoles, c'était pas enseigné nulle part, c'est vraiment les gens qui s'entraidaient finalement, et qui disaient, si jamais tu vois ce signe-là, ça veut dire ça.
Dans votre texte au début, on signe de survie. Je comprends qu'on veut relever l'humanité derrière ces signes-là et on passe de différentes sources ou de différentes inspirations allant de Dreyfus à Basquiat notamment. Basquiat, j'en entends beaucoup parler parce que j'ai une grande amie qui est fan de Basquiat. Qu'est-ce que Basquiat vous a amené dans cette démarche-là?
Mais en fait, moi, quand j'ai vu les signes, je me disais, je les connais. Mais moi, je les avais pas vus comme toi, dans la rue. Mais je me disais, je suis sûre que j'ai déjà vu ces signes-là. Puis en regardant les catalogues des œuvres de Basquiat, je me suis rendu compte que lui, les a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisés. Puis c'est aussi, il l'utilisait aussi d'une façon à décrire son mal-être dans la société américaine aussi.
Oui,
Il y a beaucoup
en tant qu'homme
de.
noir d'origine haïtienne et portoricaine.
Oui, c'est ça. Donc, quand tu comprends les symboles, parce que bon, c'est point, c'est des fois, lui écrivait aussi la définition en dessous du symbole, mais quand même, quand ils étaient répétés comme ça a une charge émotive qu'on ne perçoit pas nécessairement au départ, juste en voyant les œuvres de Basquiat. Quand on commence à les analyser, là, tu fais, ça a une autre charge émotive, puis on se rend compte plus encore de son malaise. C'est là que ça m'a touché plus aussi.
Ce malaise-là qui peut être partagé par beaucoup de communautés qu'on dit racisées, qu'elles soient autochtones, noires.
En fait, par n'importe qui est différent,
Ouais.
hein, c'est.
Oui,
Ouais.
c'est sûr que à Montréal, il y a quand même une belle ouverture, mais d'un quartier à l'autre,
Ça peut
ça
être
peut
différent, oui.
changer, oui.
Ouais.
Les œuvres que vous avez créées pour faire ce livre-là sont aussi en exposition. C'est l'exposition qui s'appelle Errance et signes de survie. Donc, c'est les dessins du livre et ça se tient à la Maison de la Culture Claude Léveillé. Et ça a débuté le 24 janvier, mais c'est présenté jusqu'au 3 mars. On invite les gens qui voudraient aller voir ces belles œuvres-là en personne, voir tous ces pictogrammes. C'est vraiment tout un voyage que de voir ces œuvres-là.
C'est quoi la relation entre l'exposition et le livre écrit? Est-ce qu'il y a une interaction entre les deux? Est-ce qu'il faut avoir lu le livre avant d'aller voir l'exposition?
Non, pas nécessairement. En fait, le livre, ça a été une sélection des symboles. Il y en a
OK.
plus dans l'exposition. Il y a un lien aussi parce qu'on a mis au mur le texte de Joséphine Bacon puis celui de Anne-Marie Gill. Mais sinon, il y a plus d'œuvres aussi. Il y a des œuvres qui sont antérieures, puis qui viennent avant et après cette série d'œuvres-là, qui aussi sont reliées à l'errance, puis à la migration. Donc, c'est un peu plus vaste comme exposition. Il y a des grandes œuvres, des tableaux, il n'y a pas juste. Là, il y a 125 œuvres de ce. Je pense que dans le livre, il y en a 85, mais il y en a plus dans l'exposition.
OK. Puis, moi, parce que la plupart des autres intervenants, bon, René, on sait qu'il est haïtien. Pourquoi c'était important d'impliquer des Autochtones, au-delà du fait que Joséphine est une amie, pourquoi c'était important d'impliquer les Autochtones dans ce projet-là?
En fait, c'est important d'impliquer toutes sortes de personnes différentes. C'est pas les Autochtones, parce que bon, les Autochtones aussi, j'aurais pu aller chercher des gens de d'autres communautés. Là, ça a donné. Il fallait que ça se fasse un peu de façon naturelle aussi, là. Puis Joséphine, ça se faisait de façon naturelle, mais j'aurais pu aller chercher quelqu'un d'Atikamekw ou d'une autre communauté. Mais je ne voulais pas forcer non plus les choses. C'est pour ça que quand je me suis rendu compte que c'est plus une génération, j'avais envie que ça soit pas juste le portrait d'une génération, qu'il y ait des hommes, des femmes, qu'il y ait toutes sortes de gens finalement, pas juste une voix, là.
Avoir un bel éventail de notre
Oui.
société,
Oui,
là.
c'est ça.
Donc, Suzanne Cloutier, Errance aux éditions du Passage, c'est disponible dans les librairies. Pour vous suivre en tant qu'artiste, est-ce qu'on peut aller sur Facebook ou est-ce que vous avez un site Internet?
Oui, j'ai un site internet, le www.suzannecloutier.com.
Donc, on peut suivre vos activités d'artiste. On vous en invite les auditeurs à aller voir l'exposition à la Maison de la Culture Claude Léveillé du 24 janvier au 3 mars.
Et puis, de déguster le livre Errance aussi.
Oui.
Suzanne Cloutier, merci beaucoup. Miigwech.
Oléonie.
Je suis désolée, je ne peux pas vous répondre dans votre langue, mais merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Bon succès, Suzanne.
Merci, au revoir.
Au revoir.